Donc nous avons essayé de survoler le quatrième chant du serviteur, un chant organisé, comme vous le savez maintenant par cœur, en structure, à mon sens, hein, concentrique, avec une première et une dernière partie qui se correspondent. L'exaltation du serviteur, les parties 2 et 4 qui se correspondent également. Il est question de l'exclusion du serviteur, exclusion des hommes, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Hier, nous avons vu qu'il était en fait exclu au fil du monde des vivants. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et tout ça dans le but de nous expliquer le sens des souffrances du serviteur. Pourquoi a-t-il souffert ? Bien pour nous guérir par ses meurtrissures. Et là, nous sommes en train de descendre le mont Everest. Un commentateur avait en effet comparé ce quatrième chant du serviteur au mont Everest de la prophétie messianique. La scène se passe donc dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, premier tome, dans l'ordre de parution, je précise. Du monde de Narnia, roman fantastique de C.S. Lewis, que vous connaissez tous, ou plus ou moins. Et la sorcière blanche, vous vous rappelez ? En tout cas dans le film, qui a imposé à Narnia un univers permanent, arrive dans le camp de l'armée d'Aslan. Vous vous rappelez de cette scène ? Le vrai roi de Narnia. Et elle exige l'exécution d'Edmund, parce qu'il a trahi les siens. Suivant la puissante magie de Narnia, tous les traîtres appartiennent à la sorcière à vie, leur sang est sa propriété. C'est son droit, c'est ce que les lois de Narnia exigent, imposent. Alors Aslan s'entretient seul dans sa tente avec la sorcière et ressort en disant « La sorcière renonce au sang du fils d'Adam ». Explosion de joie dans le camp. Explosion de joie. Edmund va être épargné. Ce que le peuple ne sait pas, c'est que pour obtenir la libération du jeune garçon, le lion a en fait proposé de donner sa propre vie. D'être exécuté à sa place. Vous vous rappelez ? Le soir même, Aslan se rend donc sur le lieu de son exécution. Il est moqué, raillé sur son passage. Il est ligoté, tondu, humilié et tué. Un coup de couteau des mains de la sorcière sur une table de pierre. Triste. Mais le lendemain, la table de pierre se brise. Aslan est revenu à la vie. Et là, la question qui se pose, c'est que s'est-il passé ? Lucie et Suzanne ont pourtant vu le couteau et la sorcière. Ils ont vu le couteau transpercer le lion. Que s'est-il passé ? Et c'est alors qu'Aslan leur répond, si la sorcière connaissait vraiment le sens du sacrifice, elle aurait interprété la magie différemment. Lorsqu'un innocent n'y a commis aucun crime, accepte d'être tué à la place d'un traître, la table de pierre se brise. Alors, la mort elle-même décide de faire demi-tour. Vous connaissez ça par cœur. Comme vous l'aurez compris, l'histoire d'Aslan est un peu celle du serviteur que nous étudions depuis quelques jours maintenant. Un serviteur qui, selon Ésaïe, va accepter volontairement d'être condamné, exécuté à la place des coupables, des traîtres. Que nous sommes, que je suis en tout cas. Mais il va revenir à la vie. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans la dernière strophe, la cinquième strophe du quatrième chant du serviteur. Une strophe dans laquelle le prophète va révéler que la mort du serviteur n'est pas la fin. Et c'est en substance ce que j'aimerais que nous retenions pour finir cette série sur Ésaïe 53. La mort n'est pas la fin. Bonne nouvelle, non ? La mort du serviteur n'est pas la fin, en tout cas. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 53, des versets 10 à 12. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. La mort du serviteur n'est pas la fin. Trois raisons pour cela. D'une part, c'est le verset 10, parce que la volonté de Dieu a été effectuée. D'autre part, parce que beaucoup d'hommes ont été justifiés. Et troisièmement et dernièrement, parce que le serviteur va partager sa victoire avec nous, une victoire partagée. Premièrement, donc, la volonté de Dieu a été effectuée. Regardez encore avec moi le verset 10, attentivement. La première partie du verset et la dernière partie du verset notamment. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté, oui, la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Est-ce que vous avez remarqué que cette notion de volonté est présente au début et à la fin du verset ? C'est le même mot dans l'hébreu biblique, rapetz. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Début du verset. Fin du verset et la volonté. C'est le même mot dans l'original. Le désir. Oserais-je dire le plaisir ? Je ne sais pas. Peut-être pas. Et la volonté, en tout cas, de l'Éternel s'effectuera par lui. Autrement dit, l'origine des souffrances du serviteur, et j'espère que vous le comprenez, l'origine de ces souffrances est clairement divine, non ? Vous êtes d'accord avec moi ? C'est la volonté de Dieu qui s'est effectuée, sa volonté souveraine qui s'est effectuée. Ce qui prouve que le Dieu de la Bible est un Dieu sadique qui a pris un malin plaisir à faire souffrir son propre fils, non ? Ben, c'est ce qui s'est passé pourtant. Alors c'est ce que pensent certains auteurs non chrétiens comme le célébrissime Richard Dawkins, un biologiste britannique contemporain qui a écrit ceci dans son livre « The God Delusion » traduit en français « Pour en finir avec Dieu ». Vous connaissez ce livre ? Ok, vous ne perdez rien. Je le cite. « On peut dire que de toutes les œuvres de fiction, le Dieu de la Bible est le personnage le plus déplaisant, jaloux et fier de l'être. Il est impitoyable, injuste et tracassier dans son obsession de tout régenter. Adepte du nettoyage ethnique, c'est un revanchard assoiffé de sang, tyran lunatique et malveillant, ce misogyne homophobe, raciste, pestilentiel, mégalomane et sadomasochiste, pratique l'infanticide, le génocide et le filicide. » Fin de citation. Mais cette accusation de filicide, c'est-à-dire le meurtre d'un enfant par son propre père, on parle d'homicide, là il parle de filicide. Ça donnait on peut parler aussi de lutte fratricide, de la mort entre frères. Il parle de filicide. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, et je ne sais pas si vous le savez, c'est que cette accusation de filicide est aussi portée par des auteurs chrétiens protestants évangéliques qui vivent dans notre monde, de l'autre côté de la Manche notamment. C'est le cas d'un Anglais qui s'appelle Steve Chalk, qui à mon époque croyait cela. Peut-être qu'il a retourné sa veste depuis, mais en tout cas, quand j'ai un peu étudié cette question, c'était entre 2003 et 2005, voilà ce que Steve Chalk, C-H-A-L-K-E, écrit dans son livre en ce qui concerne la substitution pénale, le fait que Jésus soit mort à notre place. Voilà ce qu'il écrit. Cette doctrine équivaut à une maltraitance d'enfant cosmique. En anglais, a cosmic child abuse. Un père vindicatif punissant son fils pour une offense qu'il n'a pas commise. C'est écrit dans un livre intitulé The Lost Message of Jesus. Le message perdu de Jésus qui, pour le coup, est très bien perdu là. Qu'est-ce qui cloche dans cette théologie, en tout cas dans celle de Steve Chalk ? Ce qui cloche, c'est que contrairement à ce qu'il semble croire, la rédemption, et j'espère que vous l'avez compris, notamment après avoir assisté à nos exposés de doctrine sur la Trinité ou sur la rédemption, c'est que la rédemption n'est pas un acte solitaire, mais l'œuvre d'un Dieu trinitaire. Dans la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, vous vous rappelez, ne sont pas des personnes totalement séparées, elles sont distinctes, mais pas séparées. Elles n'ont pas des volontés différentes, mais des personnes qui sont unies, non confondues certes, mais unies, ayant une seule et même volonté. Comme en témoigne le sacrifice de Jésus, sur la croix où Jésus a été sacrifié, en fait nous assistons à l'autosatisfaction de Dieu par l'autosubstitution de Dieu. Là, vos cerveaux vont commencer à chauffer. Peut-être pas à griller, mais à chauffer. Et encore une fois, si je vois de la fumée qui sort de vos oreilles, je vous avertis. quelques minutes d'attention particulière. Auto-satisfaction de Dieu par auto-substitution de Dieu. Qu'est-ce que j'entends par l'auto-substitution de Dieu ? C'est que sur la croix, ce n'est pas vraiment une tierce personne qui est condamnée, mais c'est Dieu lui-même. Sur la croix, ce n'est pas simplement une tierce personne qui est condamnée, mais c'est Dieu lui-même qui, dans la personne du Christ, agit sur lui-même et nous réconcilie avec lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sur cette croix, celui qui n'a pas connu le péché, c'est la suite du verset, c'est-à-dire de qui Paul parle, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui absolument la justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Ce qui rend le jugement de Dieu mais parfaitement juste. Pourquoi ? Parce que Jésus a été considéré comme coupable, vous comprenez ? Il a été considéré comme coupable, non pas en vertu des péchés, de ses propres péchés, puisqu'il n'en avait pas, mais en vertu, si j'ose dire, de nos péchés qu'il porte. Il a volontairement porté nos péchés et a été puni en conséquence. Et finalement, ce n'est que justice. Dieu est parfaitement juste sur la croix. C'est ce qu'on appelle le concept d'imputation, qui consiste à mettre quelque chose au crédit ou sur le compte de quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si vous me donniez vos coordonnées bancaires, votre RIB, et comme si je mettais sur votre compte 1 milliard d'euros. Ça vous dit ? Vous pouvez aussi faire ça pour moi, si vous voulez. Ou sur le compte du GBU, comme vous voulez. C'est ce qu'on appelle le concept d'imputation, mettre sur le crédit, mettre quelque chose au crédit de quelqu'un d'autre, ou sur le compte de quelqu'un d'autre. Et c'est en vertu de ce principe d'imputation que Jésus sauve tous ceux qui placent leur confiance en lui. D'un côté, nos péchés ont été imputés à Jésus. Dieu l'a fait devenir péché. Et de l'autre, la justice de Dieu nous a été imputée. Nous sommes devenus justice devant Dieu. Et je pense qu'il est très important de distinguer la nature du statut. Ce n'est pas que Jésus est devenu pécheur par nature, pas du tout. C'est qu'il a été considéré dans son statut comme coupable. Et de la même manière, notre nature pécheresse demeure. Ce n'est pas notre nature qui est changée. C'est notre statut juridique aux yeux de Dieu. De la même manière que Jésus a été considéré comme coupable, Dieu nous considère comme justice aujourd'hui. Juridiquement, nous pouvons avoir l'assurance d'être justifiés, déclarés justes devant Dieu. Auto-substitution de Dieu. Dieu s'est substitué. D'accord ? Et le résultat de cette auto-substitution, eh bien, c'est l'auto-satisfaction de Dieu. Beaucoup plus brièvement, le sacrifice volontaire du Fils, ayant parfaitement apaisé la juste colère de Dieu contre le péché, ce dernier est satisfait et approuve, agrée le sacrifice de son Fils. Comment ? Quelle est la preuve que le Père a agréé le sacrifice du Fils ? Là ? Oui, là, je pense que c'est la résurrection, n'est-ce pas ? C'est la résurrection qui prouve que Jésus a vaincu la mort et que son sacrifice a été validé, agréé, accepté par le Père. Et que ça marche ! Alors, on ne peut pas non plus comprendre tous les rouages de la substitution pénale. Mais on peut avoir l'assurance, grâce à la résurrection, que ce sacrifice a bel et bien été efficace. Est-ce que vous comprenez ce qu'est en train de dire le prophète Ésaïe dans cette dernière strophe ? C'est que la mort du serviteur n'est pas la fin. Ce qui confirme la suite du verset 10. Hein. Regardez encore ce verset. « Après s'être livré en sacrifice de culpabilité » et là, je n'ai rien à vous apprendre sur le sacrifice de culpabilité qui se trouve notamment dans le livre de Lévitique, un sacrifice très exigeant, parce qu'il demandait non seulement le sacrifice d'un animal, mais aussi le paiement d'une compensation avec intérêt. Exigeant. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Vous voyez comment dans ce verset, la mort n'est pas la fin. Dans ce verset, le verbe « voir » fait référence à la descendance et au jour du serviteur qui évoque un certain retour à la vie, témoignant de son innocence et de sa justice. Parce que dans l'Ancien Testament, une descendance nombreuse et une longévité constituaient généralement le sort du juste. La mort n'est pas la fin pour le serviteur. La volonté de Dieu a été effectuée. Il va mourir, certes, mais il va il va revenir à la vie. La mort n'est pas la fin pour le serviteur. Et vous savez quoi ? La mort n'est pas la fin non plus pour tous ceux qui placent leur confiance en lui. Bonne nouvelle, non ? Bonne nouvelle. Le serviteur va les faire bénéficier de son sacrifice en leur permettant d'être pardonnés et justifiés. Et c'est précisément l'objet du verset suivant. Regardez le verset 11. Premièrement, la volonté de Dieu a été effectuée. Deuxièmement, résultat, beaucoup d'hommes justifiés. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. Alors, la première partie de ce verset est assez difficile à traduire. Hein, le texte hébreu de Qumran, les manuscrits de la mer morte, découverts en quelle année ? On a vu ça dans la doctrine de l'écriture. 1947. Et la version grecque de l'Ancien Testament, on appelle la version des Septante, traduisent, et c'est peut-être votre version, « Après les tourments de son âme, il verra la lumière ». C'est notamment la traduction de la Bible du Semeur. Mais si vous avez la NBS, vous avez le texte hébreu un peu plus traditionnel, ce qu'on appelle le texte massorétique, qui dit quant à lui « il verra », tout simplement. Alors, dans le prolongement du verset 10, il me semble qu'Ésaïe fait référence en fait, à la continuité de l'existence du serviteur, qui, après les tourments de son âme, verra non seulement la lumière de la vie, verra la lumière en tout cas, mais rassasiera ses regards, et sera pleinement satisfait en voyant le fruit de son œuvre. Je ne sais pas ce qu'on vous version au verset 1, mais ce n'est pas facile à comprendre. Le serviteur va être apparemment comblé en rassasiant ses regards. Mais la question que vous vous posez peut-être, c'est de quoi va-t-il rassasier ses regards ? Quel va être le fruit de son travail, de son œuvre, qui va apparemment le combler, dont il va se rassasier ? Une idée ? Je pense que le fruit du travail du serviteur, le résultat de son œuvre, de son sacrifice, de sa mort, en fait, c'est vous. C'est vous, en fait, tu crois. Il me semble que c'est de vous, de tous les hommes qu'il justifie, que le serviteur rassasie ses regards. Beaucoup d'hommes seront justifiés par la connaissance qu'ils auront de lui. Est-ce que vous avez conscience que le serviteur rassasie ses regards de vous, qu'il est comblé par le fruit de son travail, par les conséquences de sa mort sur la croix. Et cette conséquence est que beaucoup d'hommes vont être justifiés grâce à lui. Comment ? Par le moyen de la foi. Je pense que c'est ce que dit la suite du verset, par la connaissance qu'ils auront de lui, une connaissance personnelle, intime, qui permet à beaucoup d'hommes d'être déclarés justes sur la base de l'œuvre du serviteur, mort et ressuscité. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à un autre passage dans le Nouveau Testament, mais voilà le sens de ce verset dont Paul semble s'inspirer pour rappeler le principe très important de la doctrine de la justification par la foi. Regardez ce que dit Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 25. « Nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » Voilà, d'une certaine manière, le principe de la justification par la foi anticipé dans l'Ancien Testament et qui est confirmé par beaucoup d'autres textes. Habacuc 2.4, le juste vivra par la foi. Abraham, en Genèse 15, est déclaré juste parce qu'il a cru en Dieu avant même le principe, ou en tout cas l'institution de la circoncision. Genèse 17, les croyants de l'Ancien Testament ont été justifiés par la foi, me semble-t-il. C'est ce que Paul nous rappelait hier par anticipation, en plaçant leur confiance dans les promesses de Dieu qui trouvent leur accomplissement ultime en Jésus-Christ. Beaucoup d'hommes justifiés. Le serviteur a donc partagé avec eux les bienfaits de son œuvre, sa victoire sur la mort. Et c'est sur cette image d'un serviteur victorieux que le prophète va terminer son quatrième chant. Regardez le verset 12 avec moi, pour finir. « C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. » La mort n'est pas la fin. La volonté de Dieu a été effectuée. Beaucoup d'hommes ont été justifiés et une victoire partagée. Le serviteur a partagé sa victoire. Loin d'être une erreur ou un échec, la mort du serviteur est en fait une grande victoire. Ouais, une victoire dont beaucoup d'hommes seront au bénéfice. Et regardez la première partie du verset A encore. C'est pourquoi je, et là c'est Dieu qui parle, je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Regardez la suite du verset. C'est une victoire que le prophète compare à celle d'un roi revenant de la guerre et partageant son butin, c'est ce que dit la deuxième partie du verset 12, hein, un butin avec le peuple, en tout cas avec une multitude de personnes, de serviteurs, s'est livré lui-même à la mort. Il était compté parmi les coupables, c'est vrai, il est mort, certes, il est ressuscité, mais, cependant, toutefois, néanmoins, quoi qu'il en soit, on arrête là. Il n'a pas cherché à profiter égoïstement de cette victoire sur la mort. Il a fait tout ça, non pas pour lui, mais pour nous, mais pour vous. Il a fait ça pour vous, pensant à nous, intercédant pour les coupables. C'est le dernier verset, hein. Intercédant pour les coupables. Vous voyez comment le serviteur a partagé sa victoire sur la mort avec nous, ce qui fait de lui non seulement un roi conquérant, un Alexandre le Grand, un Guillaume le Conquérant, un William Braveheart Wallace. Vous avez vu Braveheart. Freedom! C'est un roi serviteur. Un roi conquérant, c'est vrai, mais aussi un roi serviteur, comme nous le chantons dans nos églises. Tu es venu jusqu'à nous. Je vais m'arrêter là. Johan chante beaucoup mieux que moi. La mort n'est pas la fin. Vous en avez conscience ? La mort n'est pas la fin. La volonté de Dieu a été effectuée. Beaucoup d'hommes ont été justifiés parce que le serviteur a partagé sa victoire avec nous, une victoire partagée. Et ainsi, la boucle du quatrième chant du serviteur est-elle bouclée ? Vous vous rappelez ? Le chant du serviteur a commencé avec quel aspect du ministère du serviteur ? Son élévation, il a été élevé. Élevé parce que défiguré, défiguré parce que sacrifié, mais il a été élevé. Mon serviteur montera, s'élèvera, il sera très haut placé. Et le chant finit avec son exaltation, son élévation, sa résurrection. La boucle est bouclée. Alors j'ai trois applications pour finir. Première implication qui semble découler naturellement de ces versets, c'est ne plus vivre dans la culpabilité. Ça fait l'objet d'un slide. Pas de mal. Ne plus vivre dans la culpabilité. Est-ce que vous avez lu L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, The Treasure Island? Un super livre. Hein, Stevenson, auteur écossais du 19e siècle, a écrit ceci dans ce livre. Nous avons tous des pensées qui feraient même honte à l'enfer. Nous avons tous des pensées qui ferait même honte à l'enfer. Vous vous sentez concerné ? Nous avons tous des pensées qui pourraient faire honte à l'enfer, qui feraient honte à l'enfer. Autrement dit, nous avons tous un ou deux, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, cadavres dans le placard. Le souvenir de choses que nous avons pensé, dites ou faites, et nous avons vraiment honte. Genre, si ces choses devaient être projetées sur cet écran géant, je pense que je mourrais de honte devant vous. Notre conscience nous travaille parfois, non ? Notre conscience nous tourmente. Notre conscience nous condamne, peut-être aujourd'hui, peut-être en ce moment même, à l'heure où nous parlons. Je n'en sais rien. Seul Dieu sait. Mais quelle que soit la gravité des péchés que nous avons commis, avez-vous conscience que nous n'avons plus besoin de vivre dans la culpabilité objective devant Dieu ? Nous n'avons plus besoin d'être l'esclave de la culpabilité objective devant Dieu. Pourquoi ? Je pense que la réponse est dans ces versets. Parce que le serviteur s'en est chargé. Regardez le verset 10. Il s'est livré en sacrifice de culpabilité. Regardez le verset 12 encore. Il a été compté parmi les coupables. Et il a intercédé pour eux. Nous n'avons plus à vivre, à être l'esclave de la culpabilité. Alors bien sûr, si nous savons pertinemment dans le secret de nos cœurs que nous avons objectivement péché contre Dieu ou contre les hommes. Si par exemple nous rejetons l'autorité de Dieu dans un domaine spécifique de notre vie, si nous le savons pertinemment, si nous le faisons en notre âme et conscience, en toute connaissance de cause, confessons nos péchés. Confessons nos péchés, qui est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais si la culpabilité objective, subjective, nous empêche de vivre, une culpabilité qui n'a plus rien à faire là, en tout cas aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus considérés comme coupables, mais si nous luttons dans notre vie avec la culpabilité subjective qui nous empêche de vivre, qui nous condamne, n'oublions pas que nous avons un ennemi, le diable, qui nous condamne, mais il n'a plus aucune raison de nous condamner. Il est au chômage technique. Pourquoi ? Parce que Jésus a pris sur lui l'objet de la condamnation. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1, dira « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jésus l'a pris sur lui. » Et c'est pour ça que le diable a été désarmé. Il ne peut plus rien faire pour nous. Mais il est quand même actif. Et il réussit parfois à nous faire culpabiliser alors que nous ne sommes plus coupables aux yeux de Dieu. C'est fini. Pour Dieu, c'est fini. Jésus a tout payé, tout a été accompli. Et on se sent quand même coupable. On n'a plus à vivre dans cette culpabilité. Jésus nous en a libérés, objectivement, devant Dieu. C'est fini. Il a tout payé. Alors si vous luttez avec ce problème, comme moi parfois, je l'avoue, au lieu de répéter ceci, comme le préconise l'Association internationale de l'estime de soi, c'est véridique, je n'invente rien. Au lieu de répéter « je m'aime et je m'accepte tel que je suis », pourquoi ne pas répéter ceci, comme les préconise la Bible, beaucoup plus pertinent. Dieu m'aime. Dieu m'aime et m'accepte en Christ, en dépit de ce que je suis. Dieu m'aime et il m'accepte en dépit de ce que je suis en Christ. Ne plus vivre dans la culpabilité. Vous luttez avec ce problème ? Deuxième implication, ne plus vivre dans la peur, notamment la peur de la mort. Dans un entretien publié dans l'Express en avril 1994, alors là encore, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans peuvent connaître. 94, c'est bon. Georges Duby, qui est un historien assez connu, déclare ceci. En fait, je le paraphrase dans un premier temps. Pour lui, les hommes d'aujourd'hui ont plus peur de la mort que ceux du Moyen-Âge. Surprenant, on aurait tendance à penser que c'est le contraire, que les hommes du Moyen-Âge auraient plus peur de la mort. Pour lui, c'est le contraire. Les hommes d'aujourd'hui ont plus peur de la mort que ceux du Moyen-Âge. Et pour accréditer sa thèse, il cite le succès extraordinaire des, je cite, « charlatans qui vendent toutes sortes de talismans pour essayer de vaincre l'adversité, de prévoir l'avenir, de se défendre contre les forces mauvaises. Et les maladies de l'âme, dont beaucoup viennent certainement de ce sens d'impuissance des hommes face à leur destin. » Et il termine son entretien en disant ceci. « Ce que je vois surtout, c'est que le matérialisme ne satisfait pas l'immense majorité des gens. Ils sont en quête de quelque chose de plus. » Fin de citation. Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit vous envisagez la perspective de mourir. Est-ce que vous avez peur ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Mais si vous avez placé votre confiance en Jésus, qui a porté vos péchés, qui a été jugé à votre place, qui a vaincu la mort, vous n'avez plus à vivre dans la peur, notamment dans la peur de la mort ou de ses conséquences. Vous comprenez pourquoi ? De la même manière que la mort n'est pas la fin pour le serviteur, la mort n'est pas la fin pour ceux qui placent leur confiance en lui. Le serviteur a partagé sa victoire avec nous. Beaucoup d'hommes ont été justifiés. Mais si vous luttez avec cette peur, est-ce que vous avez déjà essayé, par exemple, de méditer sur ce que la Bible appelle le ciel, le paradis, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle création, où nous serons avec lui pour l'éternité ? Écoutez ces paroles de l'Apocalypse. Repassez-les dans votre cœur. J'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses auront disparu. » Quel dommage! Quel dommage que si peu de cantiques dans nos églises sont consacrés au ciel, à l'éternité, à la nouvelle création, aux nouveaux cieux, à la nouvelle terre. Quel dommage qu'il n'y ait pas assez de chants consacrés à cette réalité glorieuse que nous allons vivre pour l'éternité. Quand avez-vous chanté un cantique entièrement consacré au ciel pour la dernière fois? Alors, à défaut de chanter, pourquoi ne pas composer un chant consacré entièrement au ciel? Je ne sais pas. Ou alors, pourquoi ne pas prendre le temps? 2 minutes par jour, par exemple, je ne sais pas, en vous brossant les dents, ou dans le bus, dans le métro, à vélo. Pourquoi ne prendre 2 minutes par jour pour méditer? Et quand je dis méditer, ce n'est pas faire le vide, mais c'est faire le plein des promesses de Dieu. De les apprécier à leur juste valeur, de les savourer, pour qu'elles deviennent réelles dans notre cœur, pour que nous les vivions, ne plus vivre dans la peur. Vous connaissez peut-être Dietrich Bonhoeffer, l'un des théologiens les plus influents du XXe siècle, théologien allemand, qui a notamment vu sa vie racontée dans plusieurs biographies. Et Dietrich Bonhoeffer a lutté contre les nazis toute sa vie, Il est aux États-Unis, puis après en Allemagne. Et cette histoire est tragique. La veille de son exécution, sentant la mort approcher, il a été fait prisonnier, il sent qu'il va être exécuté par les nazis. La veille de son exécution, sentant la mort approcher, il a déclaré ceci à un ami. C'est la fin pour moi. Mais c'est le début de la vie. C'est beau, non? C'est la fin, dit-il. Pour moi, c'est le début de la vie. Est-ce que vous serez de ceux qui ont cette assurance le jour où vous sentirez la mort approcher? C'est la fin. Pour moi, c'est le début de la vie. Et 2000 ans plus tôt, un autre prisonnier a affirmé la même assurance en des termes différents. Vous voyez à qui je fais référence? L'apôtre Paul, en prison. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort, mais un gain. Ne plus avoir peur de la mort. Parce que la mort n'est pas la fin. Mais si vous n'avez jamais fait de démarche personnelle de foi en Jésus, en fait, si vous ne savez pas vraiment où vous en êtes suite à cette semaine passée ensemble, si vous êtes un peu perdu dans votre relation avec Dieu, et si vous avez peur de la mort, peut-être que vous avez raison d'avoir peur de la mort. Peut-être. Il y a parfois des peurs qui sont salutaires. En Australie, il y a des panneaux sur les plages, sur certaines plages, indiquant « danger, baignade interdite ». Pourquoi? Parce qu'il y a des requins. Vous pouvez aller vous baigner, il n'y a pas de problème, à vos risques et périls. Il y a parfois des dangers, des peurs qui sont salutaires. L'émission de Bernard Pivot s'appelait à l'époque « Apostrophe ». Là, je vous parle vraiment d'un temps de 20 ans que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et dans son émission, c'était une émission littéraire, diffusée sur Antenne 2 à l'époque, comme dirait mon père. C'est France 2 aujourd'hui, c'est pas grave. Bernard Pivot a posé cette question à son invité. « Une fois mort, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ?» Et là, l'invité commence à réfléchir, la question le surprend, et puis il répond « ce que j'aimerais que Dieu me dise ». Ah, je sais. Ce que j'aimerais vraiment qu'il me dise, c'est que finalement l'enfer, c'était pour rire. L'enfer, t'inquiète pas, c'était juste pour rire. Quand je lis la Bible, je crois comprendre que l'enfer, c'est pas pour rire. La mort n'est pas simplement la fin d'un processus biologique, naturel, la cessation de l'existence. Ce n'est pas parce qu'on meurt qu'on cesse d'exister dans la Bible. C'est quelque chose de beaucoup plus grave. C'est la juste sanction, le juste jugement, le salaire, la conséquence, le châtiment éternel de Dieu contre une humanité rebelle, qui s'est rebellée contre lui, qui continue à se rebeller encore aujourd'hui de différentes manières. Si vous reconnaissez que vous faites partie de cette humanité rebelle, que vous avez un problème, qu'il y a un problème, comme nous le disions lors de l'introduction, vous vous rappelez, il y a un problème. Ce problème, c'est ce que la Bible appelle le péché qui nous sépare de Dieu. Si vous reconnaissez humblement ce problème, et si vous reconnaissez que vous avez besoin d'une solution, d'être guéri, d'un sauveur, qu'attendez-vous pour vous approcher de Dieu ou pour revenir à lui dans la repentance et dans la foi? Si vous vous en êtes éloigné, ne plus vivre dans la mort. Troisième et dernière implication pour finir, vivre en prenant des risques. Si la mort n'est pas la fin, est-ce que vous comprenez l'implication pour nous et pour vous en tant que GBUciens? Je pense qu'il y en a quelques-unes. Si la mort n'est pas la fin, sommes-nous prêts, êtes-vous prêts à prendre des risques mesurés certes, des risques pour Dieu, en sortant de votre zone de confort. Par exemple, ô folie, en invitant vos amis au GBU. Ouh là 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 là, qu'est-ce que je vais risquer, hein? Ou en participant, alors là, comble de la folie, à une semaine nouveau départ, en étant dans la rue, en faisant des sondages. Aïe, aïe, aïe! Vous êtes prêts à faire ça? Mais si la mort n'est pas la fin, si la vie ne se limite pas au monde présent, la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on risque? Mais qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on a à perdre si la mort n'est pas la fin? À ma connaissance, et là j'ai consulté les archives antédiluviennes des GBU en la personne de Daniel Mullins, ancien sire de la région Île-de-France, l'une des situations les plus difficiles rencontrées par les GBU au cours de ces 10 dernières années, il y en a peut-être d'autres dont je ne suis pas au courant, et je m'excuse si vous avez vécu des choses plus difficiles que la situation que je vais relater, mais cette situation fut vécue par le groupe de Nanterre. Alors que le groupe faisait un stand sur le campus, vous voyez, à côté de la voie ferrée, en bas de la passerelle, pour les Parisiens, des étudiants mécontents ont piétiné des évangiles, jeté le stand sur la voie ferrée, véridique, hein, et violemment menacé les GBU. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais ce fut vraiment un moment difficile à vivre. Tout ça, pourquoi? Parce que des étudiants s'étaient réunis pour faire un stand. Okay. Alors, loin de moi l'idée de minimiser les difficultés que nous pouvons rencontrer en France. Je ne dis pas qu'en France, tout est rose. Okay. Même si c'est le Parti Socialiste qui est au pouvoir. Mais ces difficultés sont parfois, je dis bien parfois, dérisoires, non, excusez-moi, mais dérisoires par rapport à ce que subissent dans d'autres pays certains chrétiens persécutés, emprisonnés, exécutés pour leur foi parce qu'ils ont placé leur confiance en Jésus. Si la mort n'est pas la peine, mais qu'avons-nous à perdre exactement? Qu'est-ce que ça nous coûte de parler de Dieu aux autres, de faire un stand, de faire un sondage, de distribuer un tract, d'inviter nos amis au GBU? Pour l'instant en France, j'ai l'impression que ça ne nous coûte pas grand-chose. Pour l'instant. Mais profitons-en. Profitons-en. Ça vaut le coup, non? Ça vaut le coup, le jeu en vaut la chandelle. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. On prie pour finir. Je vais relire le quatrième chant du serviteur, pour finir. Voici mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. De même que tu as été pour beaucoup un sujet d'effroi, de même son aspect n'était plus celui de l'homme. Son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. De même il purifiera par l'aspersion beaucoup de nations. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils n'auraient pas été à raconter. Ils comprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé de Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qui était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasira ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables. parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Notre Dieu, notre Père, c'est avec de bien faibles mots que nous voulons t'exprimer notre reconnaissance pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que de la même manière que la mort n'est pas la fin pour le serviteur, la mort n'est pas la fin pour ceux qui ont placé leur confiance en lui. Sur la croix où il s'est livré en sacrifice de culpabilité et a fait ta volonté, le serviteur a partagé ses victoires avec nous, permettant ainsi à beaucoup d'hommes d'être justifiés. Et en vertu de cette victoire, nous prions pour que tu nous rendes capables de ne plus vivre dans la culpabilité, dans la peur de la mort, mais en prenant des risques pour toi. Et à la fin de cette série de messages dans le quatrième chant du serviteur, nous te demandons pardon pour nos péchés, te louons de tout notre cœur pour ton serviteur, le Seigneur et Sauveur Jésus, un serviteur défiguré, inconsidéré, sacrifié, percé pour nos péchés, exalté pour nous guérir de nos meurtrissures, pour nous pardonner, pour nous sauver. Nous prions que tu nous aides à apprécier à sa juste valeur sa personne et son œuvre, à fixer nos yeux sur lui tous les jours de notre vie, à l'aimer, à le suivre et à le servir. C'est en son nom que nous prions. Amen.